cette bonté qui nous pousse à la repentance ou à changer d'attitude. Alors, dans notre société, voire parfois dans nos propres vies, on cherche souvent à faire changer d'attitude par la répression ou par la contrainte, par ce qu'on appelle couramment la peur du gendarme. Certes, cela peut apporter une amélioration parfois assez rapide d'une situation donnée, mais l'autre adage populaire, chasser le naturel et il revient au galop, est la plupart du temps prompt à se réaliser. La phrase qui fait notre titre est tirée de la Bible. Celle-ci aurait donc quelque chose de différent à proposer. En septembre dernier, nous avions déjà abordé ce thème. Nous avions notamment examiné le passage de Hébreux 11, verset 6, où nous lisons Hébreux 11, verset 6 nous dit « Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » En effet, si nous souhaitons avoir une relation avec Dieu, la condition première, tout à fait évidente, c'est de croire que Dieu existe. Mais notre passage ajoute une autre condition, moins évidente, mais tout aussi déterminante. Notamment, croire que Dieu récompense ceux qui le cherchent. En d'autres mots, ça signifie que pour avoir une vraie relation avec Dieu, uniquement croire qu'il existe ne suffit pas. Je dirais même que ça ne nous sert pas à grand-chose. Mais ce qui va donner du sens à cette recherche, c'est que nous croyons qu'il récompense ceux qui le cherchent, c'est-à-dire qu'on peut vraiment établir une relation de confiance avec lui, une relation qui n'est pas à sens unique, mais que ce Dieu n'est pas insensible à cette action de le rechercher. Non, il récompense ceux qui le cherchent, c'est-à-dire, étant donné que sa réaction est de récompenser, nous pouvons dire et en déduire que ce Dieu que nous recherchons doit être bon. Cette conception-là d'une relation avec Dieu est essentielle. C'est la base pour une relation vraie et réelle avec ce Dieu. Nous entrons donc ainsi dans cette latitude décrite au verset 12 du premier chapitre de l'épître de Jean, c'est la bleue là en dessous. Certains l'ont accueilli. Ils ont cru en lui. À tous ceux-là, il accorde le privilège de devenir enfants de Dieu. Croire en ce Dieu bon avec lequel nous pouvons établir une relation de confiance, c'est ce que ce verset appelle l'accueillir. Et cela a comme conséquence que ce Dieu nous considère comme ses enfants. Ainsi, cette relation devient une relation filiale. De plus, une telle attitude a des conséquences assez incroyables, et nous allons en parler. Ce sont les psalmistes qui vont nous faire comprendre les conséquences de cette relation. Par deux fois, c'est répété dans ce livre, au psaume 33 et au psaume 147. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent ou ont confiance en sa bonté. Et dans le psaume 147, verset 11, cela est dit d'une manière plus familière, d'un langage plus familier, qui nous est plus familier. L'Éternel aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté. Remarquons que ces versets nous parlent de deux attitudes complémentaires dans cette relation avec Dieu. D'une part, manifester un profond respect pour Dieu, car il en est extrêmement digne, et croire en sa bonté. Cette double attitude a pour conséquence que ce Dieu nous aime, comme un père aime son enfant. Comment faut-il comprendre que Dieu propose une telle relation avec les êtres humains? Et là encore, nous trouvons une réponse dans les premières pages de la Bible, en Genèse 2 et 3. Alors, je vais vous lire un assez long passage de ce récit de la création. « L'Éternel Dieu façonna l'homme de la poussière du sol, il lui insuffla dans les narines le souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. » L'Éternel Dieu planta un jardin vers l'Orient, le pays des délices. Il y plaça l'homme pour qu'il le cultive. L'Éternel prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui soit son vis-à-vis. » L'Éternel dit, L'Éternel Dieu, qui avait façonné du sol tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, les fit venir vers l'homme pour voir comment il les nommerait, afin que tout être vivant porte le nom que l'homme lui donnerait. L'homme donna donc un nom à tous les animaux domestiques, à tous les oiseaux du ciel, à tous les animaux sauvages. Mais il ne trouva point d'aide qui lui soit son vis-à-vis. Alors l'Éternel Dieu plongea l'homme dans un profond sommeil. Pendant que celui-ci dormait, il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena à l'homme. Alors l'homme s'écria, « Voici bien cette fois, celle qui est os de mes os, chair de ma chair. » Mais au moment de la brise du soir, ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin. Alors l'homme et la femme se cachèrent de l'Éternel parmi les arbres du jardin. Mais l'Éternel appela l'homme et lui demanda, « Où es-tu ?» Voici un texte fort intéressant, pratiquement le seul texte qui nous relate la situation des origines et la relation qui existait à cette époque-là entre Dieu et les êtres vivants. On peut se poser la question s'il peut y avoir une situation plus pacifique et une relation plus harmonieuse. On y voit Dieu qui s'entretient en toute simplicité avec l'être humain, avec l'homme, et celui-ci qui entre tout à fait normalement dans le projet que Dieu lui soumet. Et à un moment donné, même, il entend un grand cri de joie, voire un chant de joie, quand il découvre celle qui est os de ses os et chair de sa chair. On peut se poser la question, d'où vient le fait qu'une telle situation pacifique, une telle relation harmonieuse a pu avoir existé. Alors, retournons encore au texte biblique en Genèse. Puis Dieu dit, faisons les hommes de sorte qu'ils soient notre image, qu'ils nous ressemblent. Quand Dieu les créa, les êtres humains, il les fit de telle sorte qu'il lui ressemble. Voilà le secret de cette relation sans faille. Voilà la raison fondamentale pour laquelle le Dieu créateur aime l'être humain d'un amour éternel et inaliénable. Dieu l'a créé de telle manière qu'il y ait une réelle ressemblance entre lui et eux. Et de cette ressemblance est tout simplement découlée cette impeccable relation. Mais ce n'est encore pas tout. Cette ressemblance et cette impeccable relation ont encore une autre conséquence, très importante, qui montre quel est le dessein du Dieu créateur pour l'être humain. Dieu créa de sorte qu'il soit son image, il les créa de sorte qu'il soit ou pour être l'image du Dieu créateur. C'est-à-dire que l'être humain doit refléter l'image de son créateur ou représenter ce Dieu. Mesurons-nous quelle était la communion et la relation qui existait lors de la création entre Dieu et l'être humain. Mesurons-nous également quelle était la portée, la dimension du dessein de Dieu pour sa créature. À l'aune de ces réalités, mesurons-nous l'étendue, la dimension de ce qu'on appelle communément le paradis perdu. Ce qui est grave, c'est qu'il y a eu rupture de cette relation, rupture qui a été scellée par cette parole terrible venant de la part de Dieu. Alors l'Éternel Dieu chassa les êtres humains du jardin d'Éden pour qu'ils travaillent le sol d'où ils avaient été tirés. Alors l'Éternel Dieu chassa les êtres humains du jardin d'Éden. Nous ne nous attarderons pas sur cette rupture, ni sur les circonstances qui l'ont provoquée, mais nous chercherons à examiner ce qu'il en est pour nous aujourd'hui. Et comme nous l'avons déjà dit, voilà que bien des siècles après cette rupture terrible, avec la venue du Christ sur notre terre, ce même Dieu nous fait cette offre surprenante de devenir ou redevenir ses enfants. Cette offre qui nous est présentée dans le verset que nous avons déjà lu, certains l'ont accueillie, ils ont cru à lui. À tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Quel énorme contraste entre ces deux situations. D'une part, chassé du jardin et d'autre part, accueilli. À tous ceux qui l'accueillent, qui croient en lui, qui ont un profond respect pour lui, qui espèrent en sa bonté, il offre la possibilité de rétablir cette relation avec eux et de leur offrir par-dessus tout le rôle de refléter son image. Refléter son image là où ils vivent, comme il l'avait prévu dans son dessin originel. Pas besoin d'un appel particulier pour cela. Ça fait partie de l'identité renouvelée de ceux qui l'accueillent. Mais est-ce aussi simple que ça? Comment pouvons-nous l'accueillir? D'une certaine manière, le terme « accueillir » en dit long. Il n'est pas dit qu'il faut faire des efforts, faire des œuvres bonnes, faire des prières, faire des actes de piété. Non, mais tout simplement accueillir. Mais accueillir qui? Accueillir quoi? Accueillir comment? Alors encore une fois, tournons-nous vers les passages bibliques pour y voir un peu plus clair. Là encore, je vais lire un passage assez long, mais c'est nécessaire pour la compréhension de l'ensemble. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Dieu avait tout créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. Un homme parut, envoyé par Dieu, il s'appelait Jean. Il vint pour être témoin de la lumière, afin que les hommes croient par lui. C'est lui qui est la parole qui était déjà dans le monde, puisque Dieu a créé le monde par lui. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas accueilli. Et la suite est un paradoxe assez incroyable qui retient notre attention particulière ce matin. Et on revient à notre verset. Certains pourtant l'ont accueilli, ils ont cru en lui. À tous ceux-là, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Nous sommes là en présence d'un texte très dense, aux nombreuses déclarations très importantes. Essayons d'en retirer l'essentiel pour nous ce matin. Des questions de parole de Dieu, de vie, de lumière qui se sont incarnées en une même personne. Et cette personne existe depuis le commencement. Elle est à l'origine de la création. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas accueillie. Alors que la rupture dont nous avons parlé a été consommée entre l'être humain et son créateur, celui-ci n'oublie cependant pas celui qu'il avait créé à son image. Et afin de rétablir la situation, il envoie celui qui a été à ses côtés de toute éternité. Celui-ci s'incarne, il devient homme. Et encore une fois, nous avons vu ce terrible constat. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas accueilli. Ce passage nous présente aussi une autre personne, dénommée Jean. C'est celui qu'on a appelé Jean-Baptiste, dont il est dit qu'il devait être le témoin de la lumière venue parmi les hommes. Alors écoutons ce qui est son témoignage. Jean aperçut Jésus qui se dirigeait vers lui. Alors il s'écria, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » D'ailleurs, ce Jésus dont parle Jean-Baptiste répétera le même discours tel que cela nous est rapporté dans l'évangile de Matthieu. Dès ce moment, Jésus commença à prier et à dire, « Changez d'attitude, car le royaume de Dieu est proche. » Mais, avant de poursuivre à propos de cette notion de repentance dont nous avons lu, revenons un tout petit peu en arrière. N'est-il pas surprenant que malgré cette rupture profonde, Dieu a fait le maximum pour chercher à rétablir le lien rompu. C'est d'autant plus surprenant que cette rupture est le fait et les actions non pas de Dieu, mais de l'être humain. Oui, en la personne de celui qui est désigné comme son fils Jésus-Christ, Dieu lui-même est devenu homme. Il nous est même dit qu'il a vécu comme un simple homme, comme un serviteur. Mais il s'est comporté comme quelqu'un qui aime profondément les hommes et qui ne cherche qu'à servir. Quelqu'un qui a mis son pouvoir en œuvre pour faire énormément de bien, notamment en guérissant les malades. Mais aussi en parcourant le pays en annonçant la bonne nouvelle. Comment faut-il comprendre cet acte absolument incroyable que représente cette incarnation de Dieu lui-même? Y a-t-il une autre explication, sinon que nous sommes là en face d'un acte d'amour immense? Et c'est d'ailleurs ce que nous disent plusieurs passages bibliques que nous allons lire ensemble. Premièrement, en Jean 3, verset 16. Lui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et aient la vie éternelle. Un autre passage, en Romains 5, verset 8. Mais voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, il a donné son Fils Jésus-Christ. Et le verset suivant, aussi en Romains, lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous, tel est l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, Sauveur. Mais c'est par l'envoi de son Fils Jésus-Christ, pour vivre et même pour mourir comme un vrai homme, si cela est la marque ultime, extrême de l'amour de Dieu pour ses créatures que nous sommes, il attend en retour que nous aussi nous aimions le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre énergie, de toute notre pensée et notre prochain comme nous-mêmes. Qui de nous peut prétendre que le Seigneur Dieu est la personne qu'il aime par-dessus tout? Que c'est lui qui occupe nos pensées, dont nous recherchons la communion plus que toute autre chose? N'est-ce pas là que nous sommes pris en défaut et que nous avons besoin, comme nous le dit notre verset d'introduction, de changer d'attitude? Mais alors, encore une fois, une question. Que signifie aimer Dieu? Comment manifestons-nous à quelqu'un que nous l'aimons? N'est-ce pas en lui faisant confiance et en faisant tout ce qui est possible pour gagner sa confiance et nouer une relation avec cette personne? Rien de pire pour une relation que de ne pas faire confiance. Et c'est exactement cela, notre postulat de base, notamment que l'Éternel aime ceux qui lui font confiance. L'Éternel aime ceux qui tout simplement lui font confiance. Alors, que ressentons-nous face à cette réalité? Pouvons-nous rester indifférents? Nombreux sont les récits dans la Bible de personnes qui, après avoir réalisé cet amour de Dieu, se sont écriées: je suis un homme pécheur. Et c'est notamment le cas de l'apôtre Pierre, qu'on a appelé Saint Pierre. C'est précisément parce que Jésus lui a manifesté qu'il l'aimait, malgré son triple reniement, qu'il s'est rendu compte que par ce reniement, il exprimait qu'il n'aimait pas vraiment son maître Jésus. Et c'est ainsi que lui aussi, convaincu par l'amour de Jésus, s'est écrié: je suis un homme pécheur. En effet, je ne t'aime pas de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute mon énergie, de toute ma pensée. Et qu'en est-il de nous-mêmes? Nous n'avons peut-être pas, je dis bien peut-être pas renié Jésus trois fois comme Pierre, mais l'avons-nous aimé comme il souhaite que nous l'aimions? Lui faisons-nous vraiment confiance? Si, comme Pierre, nous réalisons que ce n'est pas le cas, c'est alors que nous pourrons, peut-être devrons, appliquer notre phrase du jour et faire confiance qu'elle servira à rétablir la relation avec notre Créateur, qui, à partir de ce moment-là, sera aussi notre Sauveur très personnel. Oui, la bonté de Dieu nous pousse à la repentance. Alors maintenant, repentance, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un mot qui n'a plus beaucoup de sens à notre époque. Alors ne cherchons pas trop loin. Quand on réalise qu'on s'est trompé, ou même qu'on a été infidèle, car c'est d'une certaine manière ce que nous sommes à l'égard de notre Dieu, la démarche la plus logique, la plus simple, et en même temps, je dirais, la plus efficace, c'est tout simplement de s'excuser, de reconnaître sa faute et de demander pardon. Et c'est là que se produit encore une fois une réalité tout à fait incompréhensible de la part de notre Dieu. Il nous pardonne et nous réhabilite dans notre situation d'enfant de Dieu. La Bible est remplie de récits où des hommes et des femmes ont fait cette expérience du pardon de Dieu. Et d'ailleurs, c'est tout simplement l'accomplissement de cette promesse de 1 Jean 1, verset 9. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste, et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. Alors si nous avons le profond désir d'établir ou d'affermir une relation personnelle et réelle avec notre Dieu Créateur et Sauveur, alors faisons l'effort intellectuel de manifester à son égard, d'une part, un profond respect, car il est le Dieu du ciel et de la terre, et d'autre part, de faire foncièrement confiance à sa bonté, car il a donné son Fils pour notre rachat et notre réconciliation avec lui. Disons-lui que nous lui demandons pardon de ne pas l'avoir aimé comme il l'attendait de nous. Disons-lui que nous voulons le connaître de mieux en mieux. Pour cela, il nous a donné sa parole, la Bible. Il nous a donné des frères et sœurs qui cheminent avec nous sur le chemin de la vie, et aussi il nous donne l'assistance du Saint-Esprit promis. Dieu est fidèle et juste, bon et puissant pour nous accompagner sur notre chemin de vie et dans notre recherche. Approchons-nous de Dieu, il s'approchera de nous. Et dans cette communion, nous pourrons petit à petit changer nos mauvaises habitudes ou attitudes. Merci pour votre attention.